Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors bonjour à tous, mais je suis ravie de vous retrouver. Vous savez, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2025, que je commence un peu mal, vous l'avez entendu à ma voix. Je vous prie donc de bien vouloir m'en excuser. Alors d'abord, eh bien, cette semaine, on a un peu rendu hommage à l'attentat. Enfin, ça fait 10 ans que l'attentat contre Charlie Hebdo a eu lieu. Bien sûr, nous sommes restés très attentif pendant tout ce temps-là. Je crois que cela nous a rendu beaucoup plus sensibles finalement à l'intransigeance et j'espère que c'est quelque chose qui durera et qu'on cessera de tuer pour des idées. Je connaissais particulièrement Cabu dans l'équipe de ceux qui ont disparu. Nous étions tous les deux nés en Champagne. Et il avait pris la responsabilité, il avait fait ses premières classes au journal L'Union pendant l'été. Ensuite, comme il était écolo, j'ai été un peu bercée au dessin de Rezer, ceux de Volinsky et bien sûr les siens. Et puis, j'ai eu l'occasion de le recroiser plusieurs fois, et notamment quand il était venu à Dunkerque pour faire une planche sur la centrale nucléaire de Gravelines qui allait s'édifier. Et avec son sourire habituel et sa gentillesse, il se moquait des pêcheurs qui pêchaient directement dans les eaux de rejet de la centrale parce qu'elles étaient chaudes et qu'on y prenait bien sûr un peu de poisson. En tout cas, hommage à lui et hommage à tous ceux qui ont développé Charlie et qui continuent à y travailler. Alors aujourd'hui, on reçoit Georges Sandoz. Bonjour Georges.
Bonjour.
Donc, Georges Sandoz est ingénieur agricole. Il a été formé à l'agro de Toulouse, ex-directeur technique d'une coopérative fruitière, puisque maintenant, il est en retraite. Et vous êtes élu.
Oui, je suis élu local, donc sur ma commune, à Saint-Aunès, dans la périphérie de Montpellier, et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.
Et vous continuez à vous occuper fortement de l'agriculture.
Oui, puisque je siège au sein de la commission agriculture et je m'occupe aussi de ce qu'on appelle le plan climat-énergie qui regroupe un peu toutes les compétences transversales en matière d'agriculture, d'énergie et de déchets. Donc j'essaie de travailler dans l'horizontal, pas que dans le vertical.
Alors nous, on est Divergence hein, et surtout diffusé sur Montpellier.
Oui.
Et on a peut-être une mauvaise vision de ce qu'est l'agriculture dans la région.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que l'agriculture a été très diversifiée, hein, puisqu'il y a tout un secteur viticole important. Mais en particulier autour de Montpellier, il y a quand même une ceinture verte hein, qu'il faut maintenir parce que c'est un poumon vert. Et là, on produit pas mal de fruits et légumes, des pommes, des pêches, des prunes, du maraîchage aussi, du melon, des légumes. Donc on a une agriculture assez active et donc c'est important de le savoir. Donc.
Bien, alors on va avoir bien sûr l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Alors aujourd'hui, on est un peu, enfin cette semaine, on est de nouveau aux actualités informés du fait que les agriculteurs sont mécontents. Et qu'un certain nombre d'entre eux ont essayé même d'enserrer Paris. Alors, ces événements ont lieu pendant une négociation syndicale. Pardon. Et ce serait intéressant de refaire peut-être avec vous un peu un point sur ce qu'est le syndicat agricole qu'on connaît mal. Mais... Et d'abord, pourquoi ces manifestations sont finalement autorisées. Elles sont très particulières, les manifestations des agriculteurs.
Alors, le contexte général, c'est qu'on est à l'approche des élections des chambres d'agriculture, qui sont les chambres consulaires au siège des agriculteurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un contexte électoral qui fait que chaque syndicat a intérêt à montrer qu'il existe en vue de ces élections qui ont lieu fin janvier. Et après, par rapport à la mouvance des mouvements sociaux de paysans, il y a toujours eu, de la part des gouvernants, une certaine tolérance par rapport à d'autres mouvements.
Ça, c'est alors clair. On dit que c'est parce qu'ils peuvent pas faire grève. Hein.
Bah, disons qu'ils ont une force d'impact important, leurs tracteurs, hein, puisqu'ils peuvent bloquer la capitale ou les villes. Donc ils ont, même s'ils ne font pas grève, ils peuvent avoir, de par leur action, parce qu'ils ne sont pas salariés la plupart, en tant que mouvement, ils peuvent avoir de l'influence sur le fonctionnement de nos sociétés. Quoi,
hein, et un tracteur, ça a plus de poids qu'un véhicule de la police.
Disons que s'ils sont nombreux, oui, ça peut bloquer une ville facilement, quoi, puisqu'on a quand même des axes stratégiques qui peuvent être complètement bloqués. Quoi.
Donc ils font peur.
Je pense que les pouvoirs publics ont toujours été prudents avec les agriculteurs. Donc ça se passe surtout avec les syndicats majoritaires, hein, la FNSEA et la CNJA, qui sont les deux syndicats majoritaires en
France. Alors justement, parlez-nous un petit peu de l'existence. Hein, on connaît les syndicats ouvriers, la CGT, la CFDT, FO. Est-ce que là, les syndicats agricoles, on les connaît moins? Est-ce que vous pourriez nous les définir les dessiner un petit peu, oui. Quoi.
Disons qu'il y a deux syndicats qui sont la FNSEA et la CNJA. Le CNJA, c'est les centres des jeunes agriculteurs. L'autre, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui ont été associés pendant très longtemps au pouvoir dans la cogestion, c'est-à-dire qu'ils participent à des négociations avec les pouvoirs publics en ce qui concerne la PAC, les aides aux agriculteurs sur le plan national aussi, les programmes de développement agricole. Donc, ils ont une participation active en tant que co-gérants de la politique agricole. Ils siègent dans beaucoup de chambres d'agriculture, ils ont la présidence de plus de 90 chambres d'agriculture.
On dit parfois la FNSEA, c'est le ministère de l'Agriculture.
Disons que le ministère est très à l'écoute de la FNSEA, de manière traditionnelle, hein, ça, on peut dire ça. Ensuite, il y a la coordination rurale, qui est apparue plus récemment, qui préside 3 chambres d'agriculture sur les 97. Hein, et ensuite, il y a la Confédération paysanne, qui se situe plus à gauche politiquement, et qui a une présidence de chambre d'agriculture. Alors pour eux, c'est important.
C'est la Confédé qui est actuellement en action.
Actuellement, c'est la coordination rurale qui fait surtout partie d'elle. Coordination rurale qui se situe dans les mêmes tendances politiques et syndicales que la FNSEA. En fait, c'est un peu plus radical dans ses modalités d'action, mais par rapport à leur programme d'action et leur programme syndical, ils sont quand même assez proches de la FNSEA et du CNJA. Ce qui se démarque le plus, c'est la Confédération paysanne, avec des positions un peu différentes sur l'agriculture biologique, sur les questions environnementales.
Alors parlons un petit peu maintenant de leur politique, la FNSEA. Alors j'ai été étonnée d'abord parce que l'image que j'en avais, c'était de l'agriculture industrielle. Mmh. Et j'ai vu qu'on appelait l'agriculture industrielle l'agriculture conventionnelle. C'est un peu...
Alors, au sein de la FNSEA, il y a des structures d'exploitation extrêmement différentes. Aujourd'hui, le président de la FNSEA, lui, il dirige une très grosse entreprise qui fait des céréales et beaucoup de grandes cultures. Donc, lui, c'est vraiment un gros exploitant. Il contrôle à peu près 700 hectares. Mais dans le temps, par le passé, vous avez eu des gens comme M. Delmas, qui était un éleveur de l'Aveyron, qui représentait des structures plus petites. Donc, au sein de la FNSEA, il ne faut pas croire que tout le monde est porteur d'une agriculture industrialisée. Il y a des petits paysans, des moyens paysans. Donc, c'est assez hétérogène comme mouvement au niveau social, quoi. Après, c'est sûr que sur le plan du syndical, ils ont été beaucoup dans la co-gestion des politiques agricoles communautaires. Et donc, c'est vrai qu'ils font partie un peu de l'héritage en matière de politique agricole, de pas mal de dysfonctionnements, puisqu'on peut en parler de la PAC, il y a quand même des inégalités en termes de répartition des aides, puisque souvent les aides
sont... Et par rapport à l'écologie, alors hein ?
Et par rapport à l'écologie, là aussi, il y a des grosses différences entre la Confédération paysanne et les autres syndicats. Disons que la Confédération paysanne est beaucoup plus sensible au thème écologique, alors que la FNSEA et la coordination rurale sont plus hostiles à ça. La caricature, c'est par exemple la coordination rurale qui aujourd'hui demande le démantèlement de l'Office français de la biodiversité. C'est quand même assez paradoxal, parce que l'Office français de la biodiversité, c'est lui qui est chargé de contrôler un certain nombre de mesures de la PAC européenne. Donc c'est normal que l'Europe, qui distribue de l'argent, puisse mettre en place des contrôles pour vérifier que l'argent est bien utilisé. Et en plus, l'OFP...
Donnez-nous un exemple.
Ben, par exemple, sur le fait que les jachères soient respectées, qu'il y ait des terres non cultivées, que les haies ne soient pas arrachées. Donc voilà, disons qu'il y a besoin d'un contrôle. Alors... Peut-être que le contrôle a été peut-être maladroit dans certains cas, quoique je ne pense pas que ce soit forcément des cow-boys, hein, les gens de l'OFB. Mais bon, c'est de là à dire il faut démanteler tout contrôle et puis nous laisser la paix, nous laisser faire, c'est un peu caricatural, quoi. Je pense qu'il faudrait un peu plus de nuance dans les positions de la coordination rurale.
Et pour l'instant, ils en manquent un peu.
Ben, ils en manquent, oui, parce qu'ils sont un peu dans une logique un peu corporatiste. Par exemple, je prends l'exemple des pesticides. Bon, il faut savoir qu'en Europe, un certain nombre de pesticides sont interdits et d'autres sont autorisés. En France, on a autorisé certains pesticides qui sont interdits dans d'autres pays de l'Europe parce qu'ils peuvent avoir une action négative sur les abeilles. Mais plutôt que de demander à ce qu'on interdise ces pesticides dans les autres pays de l'Europe, leur position, c'est plutôt de dire « bon, ben, il faudrait qu'on soit autorisé, nous aussi, à les utiliser ». Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils prennent une position un peu en nivellement par le bas. Il vaudrait mieux se niveler par le haut, quoi. Alors, c'est sûr que c'est plus facile hein, comme position, mais bon, je ne pense pas que ce soit la position correcte. Alors que la Confédération paysanne dit le contraire. Et elle dit non, puisque les autres l'utilisent.
Et rappelez-nous, la Confédération paysanne, elle arrive à représenter combien à peu près maintenant ?
Ben, je vous disais, sur les chambres
d'agriculture... Vous avez dit trois chambres d'agriculture.
Non, là, c'est la Coordination rurale qui représente trois chambres. La Confédération paysanne n'a qu'une présidence de chambre d'agriculture.
Oui, c'est pas beaucoup.
Non, ils sont minoritaires, oui.
Et eux, ils sont contre les intrants, ils sont...
Disons qu'ils ont une position par rapport aux aides communautaires, par exemple. Ils disent, bon, bah, il faut essayer de répartir les aides, non pas en fonction des surfaces, parce que si vous répartissez les aides en fonction des surfaces, plus vous êtes gros, plus vous êtes aidé. Donc c'est paradoxal, les plus gros exploitants sont les plus aidés. Ils disent, bon, il faudrait mettre un seuil au-delà duquel les aides s'arrêtent, c'est un plafond, quoi. Donc de ce point de vue-là, ils ont en plus le souci d'une agriculture paysanne, je dirais, par rapport à l'agriculture industrielle, quoi.
Alors, on a vu très nettement, avec la guerre en Ukraine, se définir une Europe par rapport justement à l'agriculture. On en avait entendu moins parler avant, enfin c'était moins visible, oui. Mais...
Oui, dans la guerre d'Ukraine pose des gros problèmes, parce qu'en fait, pour aider l'Ukraine, on a enlevé les taxes d'importation sur les volailles et sur les céréales, ce qui fait que ces produits-là arrivent sur le marché européen.
Et c'était un très gros producteur.
Oui, oui, en plus, c'est souvent des Français qui sont allés investir en Ukraine, hein. C'est pas que des Ukrainiens, hein. Et il y a des fermes d'État, des fermes d'État privatisées, donc des choses comme ça. Donc, si vous voulez, ça a posé quand même un problème de déséquilibre du marché, parce que si vous faites entrer des produits à faible coût par rapport à des produits qui sont produits chez nous à plus cher, bon, ça pose des problèmes. Donc, c'est bien d'aider l'Ukraine, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix, puis il ne faut pas le faire sur le dos de la paysannerie, quoi. C'est surtout ça qui a posé problème dans la question de la guerre en Ukraine.
Mais on a aussi, pour défendre cette position, on a utilisé aussi le fait qu'il fallait nourrir le monde, et que si l'Ukraine arrêtait de produire, on allait vers des famines.
Oui, non, c'est pas gênant que l'Ukraine continue à exporter des céréales chez des gens qui en manquent, hein, à l'extérieur du marché communautaire. Ce qui pose problème, c'est quand ces importations se reportent sur le marché communautaire et viennent déséquilibrer le marché. C'est ça qui pose problème, quoi.
Alors là, on vient de voir un petit problème lié à celui, hein, finalement, d'un déséquilibre créé par la guerre. Mais on vient de parler récemment du Mercosur. Oui. Alors... c'était un flou complet. On arrive très difficilement à y voir clair. Un jour, on nous annonce qu'il n'est pas signé. Un jour, on nous annonce que le président de la République s'y oppose. Puis le lendemain, c'est signé. Enfin, on n'y comprend rien. Alors, essayez de nous dire un peu ce qu'il en est.
Alors, actuellement, le Mercosur est en cours de négociation. Ce qui a posé un problème, c'est que la présidente de la commission a décidé que c'était accordé, alors qu'en fait, c'était pas... il faut l'accorder quand même des pays.
C'est encore pas fait.
Et ce que c'est de faire la France, c'est de réunir une minorité de blocage pour essayer de bloquer cet accord.
C'est-à-dire qu'elle a eu une première position où elle pouvait faire un veto, et ça a permis, on a attendu comme ça longtemps.
Disons qu'elle a fait traîner les négociations. C'était pas vraiment un veto, mais elle faisait traîner les négociations. Et là, maintenant qu'ils sont au pied du mur, s'ils veulent vraiment bloquer cet accord, il faut qu'ils aient une minorité de blocage. Donc il faut qu'il y ait plusieurs pays qui représentent au minimum 65% de la population qui disent non, on n'en veut pas.
Alors par exemple, on nous dit 35%.
Alors c'est 35 des pays représentant, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 35% des pays représentant 65% de la population. Il y a deux critères. Alors je ne sais pas si cela de mémoire, mais en gros, c'est deux critères qui interviennent. C'est le nombre de pays et le pourcentage de population représentée par ces pays qui peuvent bloquer le Mercosur. Alors ce problème de Mercosur, il est complexe parce que en fait, on nous dit, mais attendez, on va importer de la viande bovine du Brésil, par exemple, ou d'Argentine, mais ça ne représente que 9% de la consommation. Alors effectivement, ça ne représente que 9% de la consommation, et c'est de la viande qui ira surtout à la transformation. Alors d'une part, il y a un problème de fond, c'est que les conditions de production de cette viande ne sont pas les mêmes que chez nous. Ils acceptent des hormones pour les bovins, ils acceptent le chlore pour les poulets, de traitement en chlore. Donc ça pose des problèmes de qualité. Donc ça, c'est la première question de fond. Et la deuxième question, c'est que même si vous importez que 9% des prix moins chers, ça déséquilibre le prix de marché. C'est-à-dire que ça fait une référence vers le bas et ça risque de tirer vers le bas le reste de la production. Donc les éleveurs bovins sont inquiets par le fait qu'on laisse rentrer 90 000, 100 000 tonnes de bovins par ce biais du Mercosur.
D'autant qu'on fait en ce moment, il y a des campagnes assez fortes pour réduire... le fait de manger de la viande pour la dimension climatique.
Oui, bon, après, il y a cette autre dimension climatique aussi hein, qui joue. Mais disons que le premier problème à court terme, c'est celui du prix qui intervient, qui fait que les agriculteurs s'inquiètent de cette question-là. Je voulais dire autre chose. Oui, c'est après, bon, il y a toute la question des pesticides qui sont autorisés dans ces pays-là, qui ne sont pas autorisés chez nous. Donc, ça crée des distorsions de concurrence. Donc, ce n'est pas simple, quoi.
Donc, en fait, la France... bloque le Mercosur essentiellement sur la question de l'agriculture. Or, les autres pays d'Europe qui ne sont pas aussi pointus que nous sur le plan de l'agriculture, essaient de pousser. Pour quelles raisons ils veulent pousser, eux ?
Des pays comme l'Allemagne ont des marchés à l'exportation importants sur les voitures, sur les machines-outils. Donc, c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas impactés par l'aspect agricole, essentiellement. Ils ont intérêt à développer le marché latino-américain. Donc, ils sont intéressés par des exportations avec des taxes d'importation faibles sur ces marchés-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Mais même au sein de l'agriculture, hein, vous avez des différences d'appréciation parce que les gens qui exportent des vins de qualité ou des fromages, ils ont intérêt à rentrer sur le marché latino-américain avec des faibles taxes. Donc, tous les agriculteurs n'ont pas la même analyse de la question. Quoi.
Alors, donc ça, c'est compliqué. Ça reste un dossier compliqué.
Oui. Ben, disons que tous les gens qui sont exportateurs, ils veulent le Mercosur. Les gens qui sont sur des dynamiques où ils savent qu'ils vont être concurrencés fortement par ces pays-là, ben, ils sont plus réticents.
Alors, ça nous pose une autre question. Est-ce que le monde en développement de demain pourra davantage gérer les problèmes de son autonomie ?
Ben, disons que ce qui est sûr, c'est
parce qu'on essaye quand même, oui, on essaie de plus en plus.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'aggravation de la crise climatique, il va être de plus en plus difficile de produire dans de bonnes conditions. Donc, ça veut dire que moi, je pense que plus ça va, plus on ira vers des pénuries alimentaires. Malheureusement, si on ne fait rien de vraiment vigoureux, ce n'est pas le cas hein, aujourd'hui. Donc on va avoir des baisses de rendement. On le voit déjà hein, dans certains pays, même en France, avec la sécheresse, on a eu des rendements de céréales très bas. Donc on va plutôt vers une raréfaction des denrées agricoles, si on ne fait rien de vraiment sérieux. Donc je pense que le rôle de l'agriculture, il sera vital en termes de stratégie politique, hein, stratégie de souveraineté alimentaire, stratégie économique. Et donc, alors qu'aujourd'hui, le nombre de paysans diminue très fortement, hein, puisqu'actuellement en France, on a moins de 400 000 agriculteurs, alors qu'ils étaient plusieurs millions il y a quelques années. On néglige l'agriculture, on a tort, parce que...
Mais on ne produit pas moins.
On produit... oui, on ne produit pas moins, ça c'est sûr, mais en fait... on va y avoir une aggravation des crises climatiques qui fait que certaines productions vont baisser. Et déjà, ça a commencé. Hein. Donc, il ne faut pas croire qu'on va aller vers le plus de production dans les années à venir.
Et lesquelles, vous voyez,
disons que beaucoup de cultures comme les céréales vont être affectées chez nous. Les arbres fruitiers, on voit déjà qu'il y a des problèmes de déformation des fleurs, parce qu'il manque du froid, parce qu'il faut savoir que les arbres fruitiers ont besoin de froid l'hiver, et s'il ne fait pas assez froid l'hiver, ça ne produit pas des fruits en été. Donc s'il y a des variétés qui ne sont pas adaptées à ces changements climatiques, elles ne produisent plus. Et on voit déjà des effets de cet effet-là. Quoi,
alors sur quel produit exactement?
Sur la pomme, sur la pêche, sur beaucoup d'arbres fruitiers. Hein. On voit des floraisons qui sont de plus en plus tardives, ce qui pose problème aussi, parce que plus précoces, je veux dire, parce qu'en fait, quand les floraisons sont plus précoces, elles sont plus exposées au gel. Donc si vous avez des floraisons plus précoces parce qu'il n'a pas fait froid pendant l'hiver, vous avez plus de risques de gel au printemps.
Ouais. Voilà.
On risque d'avoir des gels de printemps qui feront plus de dégâts. Quoi. Ouais. Il faudra se protéger, donc ça coûte cher, parce qu'il faut des systèmes d'antigel. Donc c'est pas simple. Quoi.
Alors, on en revient donc à votre position montpelliéraine. Il est évident que tout le pourtour, tout le Languedoc-Roussillon est gravement concerné par ces problèmes climatiques. Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce que vous voyez des choses changer? Comment les choses se passent quand on est un proche de l'agriculture?
Déjà, on a vu cet été avec les Pyrénées-Orientales, hein, la sécheresse qu'il y a eu. Ça a beaucoup affecté la vigne, les arbres fruitiers. Donc, il y a certains départements, même chez nous, dans l'Hérault, tout l'ouest du département a été assez touché hein, par la sécheresse. On en a un problème avec les nappes phréatiques. Donc, la première conséquence du réchauffement climatique, c'est la raréfaction de l'eau. Et en particulier près de la mer, la salinisation, parce que si vous avez moins d'eau dans les nappes d'eau douce, bien la mer a tendance à rentrer dans les terres, et donc on va avoir des problèmes de salinisation qui ne sont pas simples à gérer. Quoi. Donc ça, c'est une des premières conséquences du changement climatique.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en occupe?
Disons qu'on est toujours à courir après les événements. C'est-à-dire qu'on se rend compte souvent après coup de ce qu'il fallait faire avant. Il n'aura pas préparé la transition en termes de changement de variété, de changement de culture. Donc là, on se trouve face à un mur. Et là, le problème va être extrêmement sévère parce qu'il va y avoir des luttes pour le partage de l'eau entre l'urbanisation et l'agriculture. Qui c'est qui aura le plus de poids politique? Je crains que les agriculteurs ne soient pas en bonne position. Hein. Je pense que c'est plutôt les villes qui vont avoir tendance à accaparer l'eau.
Plus dans notre région,
oui.
Le tourisme.
Voilà, tout à fait, plus de tourisme. Oui. Donc je pense qu'on est face à des problèmes graves en termes de gestion de nos lots. Ouais.
Et là, forcément, des types d'agriculture qui risquent de disparaître.
Disons qu'il y a des cultures qu'il faudra revoir. Hein. C'est sûr que les cultures qui consomment beaucoup d'eau, il faudra peut-être faire des choix culturels différents. Il faudra faire des systèmes d'irrigation différents, aller plus vers le goutte-à-goutte, ne plus faire de l'aspersion, de l'irrigation en plein champ.
Alors, vous avez évoqué aussi les changements de variété, la recherche. Il semblerait que sur ce plan-là, finalement, ça prend du temps de trouver une nouvelle variété.
Voilà, c'est le pas de temps qui n'est pas simple, parce que le problème des agriculteurs, il est aujourd'hui, et la recherche variétale, il faut 10 ans pour mettre au point une variété de... Donc c'est pas assez long, quoi. Hein. Donc il y a toujours un décalage entre le problème et la solution.
Et vous avez l'impression que ça va pas assez vite?
Disons qu'on n'a pas assez anticipé certaines questions. La gestion de l'eau, par exemple, ça va devenir capital. Parce que si vous voyez, par exemple, l'agglomération de Montpellier est à peu près 490 000 habitants. Hein. Elle prévoit de monter à 590 000. Je ne suis pas sûr que le partage de l'eau il va être favorable à l'agriculture dans un contexte de croissance démographique effrénée. Quoi,
hein. Mais quand vous dites qu'on n'a pas assez anticipé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux?
Je pense que déjà, il faudrait mettre un frein à la concentration urbaine sur la frange littorale, avoir une vision d'un aménagement plus équilibré, pour pas que toute la demande d'eau et la pression foncière s'exerce sur la frange littorale, et qu'on équilibre un peu mieux l'aménagement sur les villes moyennes de la région, comme Bédarieux, Pézenas... Clermont-l'Hérault.
Donc une réorientation territoriale.
Voilà, donc déjà, ça résoudrait les problèmes en partie de gestion de l'eau et puis aussi de pression foncière, parce qu'il faut voir aussi que du fait de la pression immobilière, le foncier coûte très cher et ça bloque l'installation des agriculteurs.
Et Lausanne ne sert à quelque chose
Disons que c'est un bon outil. Il peut être utile à ça, c'est-à-dire que ça peut limiter l'étalement urbain, donc ça peut permettre de préserver des ceintures vertes autour des villes. Hein. C'est important qu'il y ait des poumons verts. Quoi. Donc D'ailleurs, les promoteurs ne se sont pas trompés. Ils mènent une offensive très politique forte contre le ZAN à travers le Sénat, à travers différentes modulations de la loi ZAN, la zéro artificialisation nette. Hein. Donc c'est une loi qui vise, pour les auditeurs, à réduire l'étalement urbain, c'est-à-dire la consommation de terres agricoles.
Vous croyez qu'il faut y arriver ?
Disons que sur le principe, c'est une bonne chose, la loi ZAN. Mais c'est vrai que si on ne fait pas attention, il y aura des pressions politiques très fortes pour qu'elle soit remise en cause.
Alors, elle on a déjà eu une autre, un autre espoir qui était né au moment du Covid. C'est qu'on a eu l'impression que finalement, les villes allaient s'orienter de plus en plus vers une agriculture locale, vers des distributeurs locaux. Et puis, plus on s'éloigne de cette période Covid, plus on s'aperçoit que de nouveau, on repart vers finalement une agriculture traditionnelle, enfin vers du produit transformé, quoi.
Disons que oui, c'est sûr que le Covid a obligé les gens à se rapprocher des circuits courts et à s'approvisionner en local. Et à partir du moment où il n'y a plus de confinement...
Mais est-ce que vous pensez que ça reste dans les campagnes ?
Il y a une sensibilité des gens à l'approvisionnement sur les circuits courts. Mais bon, il faut voir que souvent l'agriculture travaille sur des circuits longs. Hein. Moi, je vois les fruits et légumes, la viticulture, elle est à 90% orientée sur des marchés nationaux, voire internationaux. Donc, ce n'est pas facile du jour au lendemain de basculer tout sur les circuits courts. Il faut de la transition, il faut préparer des structures, des filières de mise en marché locales. Et ça, ce n'est pas simple à MAP qui peuvent le faire. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de renforcer les circuits locaux.
Donc, en fait, on se retrouve plus à travailler au niveau des filières qu'à travailler au niveau du produit lui-même.
Il faut travailler le produit lui-même dans le sens de l'agroécologie, hein, c'est sûr, de pratiques plus vertueuses. Mais si on ne met pas en place en même temps des filières qui permettent de valoriser ces productions locales, on va au casse-pipe. Quoi.
C'est ce Alors, il nous faut terminer bientôt. Est-ce que vous pensez, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture bashing, etc., qu'à un moment donné, on va pouvoir réconcilier agriculture. Enfin, on a quand même des progrès. Mais est-ce qu'on va arriver à mettre d'accord ces deux mamelles de la France ?
C'est pas simple, mais je pense qu'il faut à la fois que les agriculteurs expliquent mieux ce qu'ils font, parce que souvent les urbains ne savent pas qu'ils ont déjà fait pas mal d'efforts hein, dans le sens de l'agroécologie, et puis que les urbains n'arrivent pas en terrain conquis en disant on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Ça, je crois que c'est pas la bonne démarche. Donc il faut plus de dialogue entre les uns et les autres. Moi, ce que je vois, c'est par exemple des gens qui s'installent à la campagne, qui ne supportent pas que les agriculteurs traitent ou qu'ils aient besoin de travailler tôt le matin. Bon, quand on va à la campagne, ben, on accepte la contrepartie. Je veux dire, il faut un peu plus de tolérance quoi, de part et d'autre. Hein. Donc je pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait du dialogue, de l'échange, de l'information. Et ça, je crois que c'est la seule solution, parce qu'arriver en terrain conquis en expliquant aux gens ce qu'il faut faire, ce n'est pas la bonne solution.
Merci Georges.
De rien.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.